On n'entend pas là.
On n'entend pas là.
Très bien. En direct. Je ne dis de mal de personne, mais il vaut mieux le faire off the record, comme on dit.
Bon, on va commencer. C'est au nom de l'Association de la presse latino-américaine, en tant que vice-président, et au nom de notre président, Antonio Guth de Montesano, qui est souffrant, qu'on donne la bienvenue au professeur Olivier Mason, qui, après avoir fait une petite présentation que je vais vous faire, va expliquer un peu de quoi il s'agit son traitement, et il sera disposé après à répondre à toutes les questions que vous voudrez lui poser sur cette découverte qu'il a fait, et aussi qu'il sera disponible pour chacun d'entre vous qui voudrait avoir un petit entretien plus personnalisé. Alors, le succès du professeur Olivier Mason dans le traitement de l'alcoolisme et des dépendances, en tant que médecin et de cardiologue à la Weill Medical College of Cornell University et praticien hospitalier à New York, Presbyterian, expert international en addictologie atteint lui-même de cette maladie et réfractaire à tous les traitements disponibles, a eu l'intuition que cette maladie pouvait avoir une base neurobiologique et que le craving en était la clé. Il est en effet admis par la communauté scientifique que l'intensité du craving dans la maladie alcoolique annonce un taux de rechute proportionnel du malade. Olivier Mason cherche alors dans la littérature les médicaments susceptibles d'agir sur le craving et découvre l'efficacité du baclofène sur des rats rendus dépendants. Cet effet est dosé et dose dépendante à haute dose de baclofène, 5 mg par kilo, plus aucun animal n'éprouve le besoin de consommer. Devant ces résultats, il émet le postulat que ce qu'il arrive au rat peut s'appliquer à l'homme et propose le premier modèle transnational de guérison. Il décide alors de s'administrer lui-même du baclofène à haute dose. À la dose de 270 mg par jour, il devient indifférent à l'alcool. À l'inverse de l'abstinence qui est liée à un effort pluricotidien, Mason propose une suppression rapide et seulement quelques jours complètes et sans effort de l'addiction à diverses substances. Il a vécu l'addiction, vit depuis 10 ans le baclofène et prescrit depuis 7 ans à ses propres malades des traitements personnalisés. Sa découverte est publiée par la revue Alcool and Alcoholism, puis Mason est publiée par les revues JAMA, Lancet et autres, et c'est comme Sol Art Autour. Le 6 mai 2011, Science, la revue scientifique internationale la plus prestigieuse avec Nature, consacre une pleine page à sa découverte et à son livre, à la fois dans sa version online et papier, The Guardian and the Observer titre When an alcoholic doctor began experimenting with baclofene, he made what called by the medical breakthrough of the century. Après avoir tenté sans succès d'alerter la communauté scientifique en publiant en 2004 son self-case report, afin que soient effectués des essais sur le baclofène, il écrit un livre grand public en anglais qui se titule The End of My Addictions. Et il adaptera en français et écrira une version légèrement différente, le dernier vers. Depuis 2006, invité à donner des dizaines de conférences sur sa méthode de traitement par Harvard Medical School, où la méthode Mason est utilisée. Rockefeller University, pour n'en citer que deux, et dès 2008, State University of New York Downstate Medical Center lui confère ses titres actuels pour associer son nom avec celui de cette découverte. Et c'est sur cette découverte que le professeur Olivier Mason va nous parler. C'est à vous, professeur.
Merci. Vous m'entendez, je crois? Très bien. Donc, je ne sais pas si... je crois que vous avez à peu près très bien couvert le retentissement qui existait. Il existait d'ailleurs avant mon livre, mais il existe surtout depuis la sortie de Le Dernier Vers en français, The End of My Addiction en anglais, The End of My Nazurt en allemand, je ne peux pas le prononcer en italien, portugais non plus. Je ne sais pas s'il y a des... En tout cas, il existe, it's available, comme on dit, à peu près sur tous les... dans tous ces endroits. Pour ceux qui ne parleraient pas parfaitement le français, c'est plus facile de le lire dans sa langue. Alors donc, je crois que je n'ai pas grand-chose à ajouter. C'est, si vous voulez me poser des questions, je répondrai avec grand plaisir. Si vous voulez que je dise autre chose, oui, allez-y.
Il a le micro.
Oui.
Anne-Marie Mergier de l'hebdomadaire mexicain Proceso. Comme tout le monde n'a pas lu votre livre, qui est épuisé d'ailleurs en France.
Non, il n'est plus.
Ah, il n'est plus, non, ça y est, il est de nouveau.
Vous pouvez le voir sur lafnac.com ou sur amazon.com.
D'accord. Bon.
Mais comme, amazon.fr.
Comme tout le monde ici n'a pas lu votre livre, est-ce que vous pourriez nous expliquer comment vous avez découvert le baclofène et à quel moment et quelles difficultés vous avez eues au départ pour faire votre expérience avec le baclofène?
Je vous remercie de cette excellente question qui contient d'ailleurs beaucoup de réponses aux questions elles-mêmes. Et je suis heureux que ce soit un journal mexicain, j'ai des affections particulières pour le Mexique. Donc, comment ai-je découvert le médicament? Je ne l'ai pas découvert, il a été découvert dans les années 20 et utilisé par les neurologues de la côte est des États-Unis dans les plus grandes facs depuis maintenant une cinquantaine d'années. Pour répondre d'avance à des questions, il n'y a pas d'effet secondaire réversible ou irréversible. Il n'y a aucun effet secondaire qui ne soit irréversible dans 24-48 heures, un médicament d'action courte. Et également, il n'y a pas un cas de mort, alors qu'avec l'aspirine, on meurt par édème de Quinn, elle est en vente libre, sans ordonnance. Même chose pour ce qu'on appelle le doliprane ou paracétamol, il y a des morts par insuffisance hépatique, même à dose thérapeutique. Alors qu'avec le baclofène, il n'y a pas un cas de mort rapporté. Donc c'est un médicament assez anodin. J'attends que quelqu'un dise, mais moi j'ai eu un problème sérieux avec le baclofène. J'attends toujours cette question depuis 2004, ça fait 8 ans maintenant, presque. Est-ce que j'ai répondu à votre question?
Mais ce médicament, comment vous avez compris que ce médicament qui n'est pas prévu pour lutter contre les addictions, ou en tout cas l'alcoolisme, comment vous avez compris qu'il pouvait servir à ça?
Alors, les addictions, vous l'avez dit, ça marche pour la cocaïne, pour l'héroïne, pour le cannabis, ça marche pour... je suis en train de publier dans des revues importantes internationales, médicales bien entendu, des cas de patients que j'ai guéris de toutes ces maladies. Vous prenez un héroïnomane au dernier degré, en une semaine, maximum 3-4 semaines, je peux moi-même le traiter. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui utilisent ma méthode sans avoir lu mes articles ni mon livre, et qui disent, tiens, c'est curieux, chez moi ça marche pas. Un peu comme si je disais, c'est curieux, dans ma cuisine j'opère des appendicites, et je n'ai jamais été formé, et je dis, l'appendicectomie ne marche pas. Non, elle marche, mais il faut la confier aux experts. Ici, il y a des gens qui se deviennent experts comme ça, overnight, du jour au lendemain, ils disent, je suis expert, etc., et en fait, on se demande, ils sont peut-être père, experts de trois enfants, je ne sais pas, mais pas experts en baclofène. Seulement l'alcool, vous persistez à dire l'alcool. Sur l'alcool, la cocaïne, l'héroïne, le cannabis, la boulimie qui est une autre forme d'addiction également. Je peux en parler si les questions sont là. Et puis d'autres formes, également des TOC, des troubles obsessifs, pulsifs et bien d'autres choses. Et j'essaye, je suis content d'être invité par vous parce que ça me permettra d'en parler un peu. J'en parle, je distille ça à droite et à gauche, mais c'est plus pratique quand des journalistes donc me posent des questions.
D'accord.
Merci beaucoup.
Non, c'était à vous, peut-être.
Bon, je crois que tout le monde aura la parole, hein. Même moi.
Concrètement, monsieur, ça agit sur quelle zone du cerveau, par quel mécanisme?
Alors, la question de la dame précédente, vous pouvez dire son nom peut-être?
Moi.
Oui. Oui, elle m'a posé une question à laquelle je n'ai pas répondu. et je m'en excuse, elle m'a dit, comment avez-vous découvert cela? En effet, c'était utilisé à dose homéopathique chez l'homme, 30 mg par jour, même 60, ça c'est adolorato, il faut toujours rendre hommage à ce qu'ils font, mais ils utilisent à dose homéopathique, et évidemment ça marche moins bien par lui que par moi, et c'est comme si moi je, encore une fois, et votre question était, donc c'est en faisant de la recherche pendant 2 ans, alors que j'étais moi-même malade, entre cuites, comme on dit, je ne buvais pas tous les jours, que j'arrivais le matin, parce que le craving me prenait l'après-midi, à faire ces recherches sur Internet, sur tous les articles scientifiques publiés. Dès qu'il y avait quelque chose, je tapais sur Google, sur PubMed, qui est le site officiel du National Institute of Health, je tapais baclofen, anxiété, baclofen, ceci, baclofen, cela, c'est tout dans mon livre, hein. Je passais ma journée, le temps que je pouvais, à essayer de regarder, consulter tous ces sites, et j'ai à peu près tout lu. Donc quand les gens disent, j'y connais quelque chose, bah, qu'ils me disent pourquoi, parce que je regarde la publication dans ces sites, le site de PubMed, et ils en ont zéro. Donc je suis heureux de pouvoir vous les transmettre, et j'en ai oublié votre question, madame. Alors, il s'agit, le professeur Antonio Damasio, que vous connaissez peut-être, l'erreur de Descartes, etc., il est à la fois neurologue, chef de service, professeur de neurologie à l'université de USC, Southern California, et il écrit beaucoup sur le système de la récompense, c'est-à-dire que pour un alcoolique, l'alcool est un excellent médicament. Moi, ça m'a permis de guérir l'alcool. Mais le problème, c'est que les effets secondaires étaient dramatiques. Donc voilà, c'est une maladie dramatique à effets secondaires que vous connaissez tous. Il y a 120 morts par jour en France, près de 300 morts par jour aux États-Unis et 2 millions, je crois, dans le monde. C'est au quotidien, pas les 2 millions dans le monde, ça c'est par an. Et ai-je à nouveau répondu à votre question, madame? Alors, redites.
Concrètement, est-ce qu'il y a une zone spécifique du
cerveau
qui est active?
Oui. Si, si. Alors, il y a hyper, chez la, c'est un peu comme dans l'hyper et l'hypothyroïdie. Ce qui marche, c'est la normothyroïdie ou EU-thyroïdie. Le thyroïdie est EU-thyroïdie et la normalisation d'une hyper ou hypothyroïdie. En musique, chez les musiciens aussi, l'euphonie EU. Et la normophonie, c'est quand quelque chose est disharmonieux, vous le rendez harmonieux en le rendant, il y a des choses qui sont... Et quelqu'un est dysphorique, c'est-à-dire une anxiété sous-jacente, ne devient pas alcoolique qui veut. Il faut avoir une prédisposition que je nomme dans le livre, ça s'appelle la dysphorie, D-Y-S, étant tout ce que je dis dans le livre et dans des revues médicales avec les références. Donc c'est sur la dopamine, cette hormone qu'on appelle de la récompense et qui est hyper sécrétée dans toutes les addictions que le baclofen agit chez l'animal. Et elle, donc c'est au niveau du système limbique, au niveau du cerveau, c'est le système primitif. C'est pour ça que l'animal est rendu addict, comme l'homme l'est également. Et que chez l'animal, comme chez l'homme, le baclofen, chez l'homme c'est moi qui l'ai inventé ou découvert. Il suffisait d'y penser, mais personne ne se posait la question. Et là, ça vous va ou...
Oui, ça me va. J'ai des questions, je vais laisser.
Non, allez-y. Oui, je crois que tout le monde est... Surtout si une question n'est pas satisfaisante pour celui qui la pose, ne me lâchez pas. Parce que j'ai pas... Oui. Donc, madame...
Je suis Vilma de Bernardo Lagari. Je voulais savoir lorsque vous prenez ce baclofen, que vous soignez, quelle que soit la forme d'addiction, vous devez le prendre jusqu'à la fin de vos jours, à dose certainement moins importante, plus vous avancez. Comment est-ce que ça se passe exactement, un traitement typique?
Alors ça dépend c'est individu dépendant, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont besoin de doses de allant jusqu'à... Je traite un patient britannique. Quand je dis je traite, c'est parce que je veux dire, parce que enfin, moi je me comprends. Ça veut dire que le patient, je ne le fais pas payer. Je n'ai jamais fait payer un seul patient. Donc les patients suivent mon traitement qui est déjà dans mon livre, mais après je passe souvent 5 heures par jour au téléphone pour le leur expliquer avec chaque patient. Donc c'est bien que vous me posiez ces questions parce que les patients ont besoin de me le demander par mail, de me téléphoner. Je passe souvent 5 heures par jour avec des patients. Encore une fois, non rémunéré, voilà, c'est Là, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Ou... Ah oui, alors, si vous aviez un cholestérol élevé, prendriez-vous le baclofen, des hypocholestérolémia, enfin, à vie, ou la rétoriez-vous, vous dites, tiens, j'ai un médicament qui baisse le cholestérol, si vous voulez avoir les complications d'un cholestérol élevé, il vaut mieux le prendre à vie, mais personne n'est obligé. Et moi, j'oblige pas les gens, on a la liberté d'informer, mais pas de convaincre nos médecins. C'est la loi Kouchner, hein, c'est de 2002, mars 2002. Oui.
On est beaucoup
plus sensible,
addict à l'alcool ou à forme d'addiction,
je ne sais pas. Le cholestérol est quelque chose de très mauvais, donc créez-vous des addictions. Mais non. Non, pas du tout. Non, le cholestérol, comme l'addiction, sont des maladies chroniques et à vie. C'est pas, c'est les addictions, c'est plus fort ou ça va? Vous entendez ou non? Est-ce que la radio entend?
C'est bon.
C'est bon. Donc la question à nouveau est-ce qu'on a besoin de fortes doses? Non, certains ont besoin de 60 mg par jour, des doses qu'on utilise régulièrement en neurologie. Si vous aviez des spasmes musculaires bénins, type un torticolis, on vous donnerait les neurologues de la côte est des États-Unis qui sont professeurs à la fois à Harvard. Chaque fois que je donne des conférences, immédiatement ils commencent à le prescrire. À Harvard, ça fait 2 ans que j'ai donné ma... Les Harvardiens le prescrivent maintenant haut la main depuis que j'ai donné ma conférence là-bas. Je crois que c'était en 2009. J'ai été obligé de refuser Harvard parce que j'avais d'autres engagements ailleurs. Chose que c'est le temple de la médecine. On m'y invitait. J'étais obligé d'aller faire une conférence là-bas. Alors l'invitation, mais je n'avais pas le temps. Donc je suis heureux de pouvoir répondre. Faut-il le prendre à vie? Non, si on a envie de ne pas être. Mais c'est ce que fait le baclofen. Je vous procure. Alors que ce n'est pas addictif comme médicament, on peut l'arrêter sans aucun problème. Il vous procure un bien-être. C'est-à-dire, on passe de la dysphorie des YS qui en médecine veut dire, et pas sur la musique, en médecine, un état donc de mal-être. En musique, ça s'appelle la dysphonie. C'est la musique de l'écaphonie, qu'on ne peut pas la fredonner. On passe à cet état-là, de cet état-là, à l'euphorie. Et pas du tout l'euphorie, là, les médecins psychiatres font une erreur de sémantique. Ce qui est intéressant, ils la font, ils disent, attendez, quelqu'un qui est prend du baclofen, il est un peu euphorique. Ben, il a le droit d'aller mieux quand il va mal, et j'espère qu'il va mieux. Oui, ou déprimé ou anxieux, donc il sort plus, il est agoraphobe, comme je l'étais, je le raconte encore dans mon bouquin, j'étais agoraphobe, je ne pouvais plus sortir, et mon thérapeute me disait, mais c'est pas grave, il est pour vous peut-être, mais moi je ne peux plus sortir de chez moi. Donc maintenant je sors très bien de chez moi, je ne pouvais pas parler, je le raconte encore dans mon bouquin, à plus de 3 personnes, dès que mon tour passait, je me suis bipé pour me faire éjecter, auto-éjecter de la pièce où on me posait la question pour ne pas passer pour l'imposteur que je croyais être et que je n'étais pas. Vous me dites si ça répond ou non? Sinon je répondrai. Donc c'est probablement un traitement à vie. Il y a peut-être des gens qui sont peu dépendants, ils le prennent pour quelques jours, et ils s'arrêtent, et tant mieux pour eux. C'est pas mon cas.
Ils ne redeviennent pas alcooliques pour autant.
Je n'ai pas connaissance de gens qui l'arrêtent et qui ne deviennent pas mal. C'est-à-dire quand ils deviennent mal, ils ont une dysphorie, ils prennent le baclofen à quelque dose que ce soit qui supprime ce mal-être. Je vois pas pourquoi ils prendraient ce médicament qui, encore une fois, est anodin, qui le prendrait pas à vie. Enfin, moi, qu'il soit maso, moi, je le suis pas. Je préfère aller bien qu'aller mal.
Alors, grâce à ce médicament, vous n'avez plus besoin d'aller en cure de désintoxication.
Oh là là. Surtout pas. Alors, j'ai été mal traité là-bas sur le plan médical, et maltraitance est ce qui s'applique à peu près tout le monde. On les oblige à aller en cure pour entrer leur bien. En France, la Sécu les rembourse. Et en France, la sécurité sociale les rembourse. Et tout ça est ridicule. C'est-à-dire, ça fait vivre ceux qui en vivent, mais pas les malades. Les malades meurent, continuent de mourir. Si les cures marchaient, ça se saurait. Enfin, elles ne marchent pas. Les gens vont en cure. Dans le New York Times, il y a un article qui s'appelle The revolving doors, la porte tambour, les cures. C'est-à-dire, en fait, vous pouvez aller en cure, vous ressortez aussi malade que vous êtes, et vous rechutez. Moi, je rechutais le jour de ma sortie de cure. Il me disait, vous allez très bien. J'ai, pour vous, mais moi, je sais que je vais pas aller bien après en sortant, et j'en buvais. Maintenant, je peux pas reboire si je prenais pas le baclofène, mais je peux pas aller bien. C'est-à-dire que mon anxiété térébrante sera là. Elle est au rendez-vous. C'est ma maladie. Est-ce que ça répond? Merci à vous. Et donc, je réponds à toute question qui veut, pour ceux qui veulent bien me la poser. Alors, oui, il vous faut le micro, un micro qui. Oui, allez-y.
Donc, moi, maintenant, je voudrais savoir quelles sont les réactions des institutions.
Par exemple, quelles institutions
Alors, voilà, le corps médical. Les viticulteurs.
Alors le corps médical, allons-y un par un parce que je ne peux pas faire tout en un. Donc le corps médical, pour ceux qui ont, c'est l'article 8 du code de déontologie est écrit pour que les gens le lisent, permet la prescription hors indication et beaucoup de médecins généralistes, ce sont eux qui doivent s'emparer de cette maladie. Avant il y avait ce qu'on appelle les phtisiologues, vous ne savez sans doute pas ce que c'est, PHTI. Heureusement ils ont disparu de la circulation et par la petite porte, depuis que tout médecin peut prescrire les antituberculeux. On n'a pas besoin d'avoir ce qu'on appelait les spécialistes de tuberculose qui n'y connaissent pas plus que vos généralistes. Donc il n'y a pas besoin d'un phtisiologue aujourd'hui. Même pas on peut avoir besoin de moi. Oui, un peu plus fort, où je peux me rapprocher, ou le voilà. Donc tout médecin généraliste, s'il lit mon livre, s'il comprend bien, et s'il ne le font pas, il me téléphone, et j'en ai beaucoup, et de dermatologues prescrivent mon traitement, donc si un dermatologue peut le prescrire, je vois tout le monde peut le prescrire. On a besoin d'être psychiatre, c'est pas du tout une maladie psychiatrique, comme on veut bien nous faire croire, les psychiatres en vivent, mais les patients en meurent de cette maladie.
Et alors les psychiatres, comment ils réagissent à votre médicament?
Très bien, ça peut vous étonner, très bien. Ce sont les psychiatres en fait qui le prescrivent le plus avec les généralistes. Parce qu'ils savent très bien que cette maladie n'est pas psychiatrique, mais comme on frappe à leur porte, certains vous diront, ceux qui sont en particulier, je connais personnellement le chef de service d'addictologie de Sainte-Anne, il ne le prescrit pas. Il y a quelque chose qui s'appelle le serment d'Hippocrate. Là, c'est pas moi qui l'ai inventé. Il y a le serment de Maïmonide. Quand un médecin prête le serment d'Hippocrate, il n'écoute pas l'Agence française de sécurité des médicaments, c'est-à-dire l'AFSAT. Il écoute son cœur, l'empathie, et il écoute sa conscience. Donc, il ne va pas demander la permission à tel ou à tel. Et s'il en est là, c'est un triste médecin. Les psychanalystes sont par principe même pas prescrits de médicaments, donc ils ne le prescrivent pas.
Mais
ils le prennent très pas du tout. Oh là là,
vous n'êtes pas critiqué.
Pas du tout. Alors les gens sérieux, non. Il y a toujours un. Je ne peux pas parler pour tous. Ils ont quand même demandé, au lieu de parler sur moi ou de moi, je préférerais qu'ils aillent à la source. Maintenant, s'ils ne le veulent pas pour leur malade, c'est dommage pour leur malade. Il faut changer. Si on est avec un psychiatre qui ne le prescrit pas, il faut changer de psychiatre. Quand on ne trouve pas d'alcool chez tel ou tel parc, que ce soit Leclerc ou Carrefour, ben, enfin chez Franprix, enfin, je ne fais pas de publicité, mais moi j'en trouve toujours, ou chez l'épicier du coin, il y en a toujours. Même chose pour le baclofène, on a une ordonnance de n'importe qui, un généraliste, on va se le faire prescrire, et c'est tout, et ça sauve votre vie, et les gens, ben, je crois qu'il y en a un parmi vous qui souhaiterait prendre la parole, allez-y, et qui lui-même guérit par le baclofène, par mon bouquin, qui a très bien compris, les gens disent, j'ai lu votre livre et j'ai tout compris et je l'ai fait prescrire. Ben, pourquoi ne pas passer la parole à monsieur? Je crois que c'est important, il est gay.
Voilà, je veux dire tous mes mots de remerciement.
Et vous êtes, pouvez-vous donner votre nom?
Alexey Vassiliev. Voilà.
Vous travaillez pour quel?
Je travaille aussi pour le magazine mexicain, mais je suis d'origine russe. Voilà, ça je tiens à préciser.
Ah oui, voilà, ça, j'adore Rachmaninov, Tchaïkovski, ce sont les plus grands. Pour moi, leur piano, comme les opéras, les Russes sont en bonne place avec les Allemands.
Oui.
Donc ils sont en bonne place ici aussi.
Oui. Mais les Russes aussi sont en bonne place.
Pour l'addiction.
Pour l'addiction, surtout l'alcool.
Exactement, voilà. L'héroïne, etc., il meurt d'addiction aussi.
Ouais. Et il faut dire que la vie moyenne d'un homme en Russie maintenant, c'est 56 ans.
Oui.
À cause de l'alcool.
C'est le seul pays industrialisé, c'est affreux, voilà. où l'espérance de vie diminue, alors qu'en fait, ouais. ils sont, alors, moi, je suis prêt à en parler avec les autorités russes, quelles qu'elles soient, comme j'ai lancé un appel. Pardon? Ah oui.
Est-ce que c'est mieux ici? Ça passe mieux? Oui. D'accord. Donc j'ai changé de micro parce que l'autre vibrait, disons, et il était sur mode vibreur. Donc voilà, je suis prêt à en parler. Je suis prêt à en parler au président Sarkozy. Je suis prêt à en parler, et je crois que, à ce qu'on me dit, j'ai son oreille attentive. Je crois, je ne sais pas si le candidat Hollande se prononce ou se prononcera avant l'élection, mais il aurait tort parce que l'addiction affecte à peu près à l'alcool 10% de la population générale. Et donc c'est très important, ces gens votent et on leur doit le respect. C'est pas pour moi, je me fiche que ce soit un patient qui aille le voir ou moi-même, mais je suis prêt à être reçu avant l'élection de préférence par M. Sarkozy qui fait un excellent travail de crise. Plus fort?
Non.
Ça va? Ouais. Donc, je fais ce que... Oui. Donc je suis prêt à en parler au président, je suis prêt à en parler au candidat, etc., à qui vous voulez. Mais on me dit que l'ancien... Oui. Je ne sais plus. Ce que je sais, c'est qu'après, il a été utilisé par des grands savants, je ne peux pas tous les nommer. Henri Laborie était un grand savant français. Oui. Il n'a pas eu le prix Nobel parce qu'il n'avait pas les bons amis au bon endroit. Donc c'est dommage pour lui, il le méritait largement. C'était un médecin militaire, donc assez atypique. Et il travaillait au Val-de-Grâce, je crois, honorer sa mémoire ici. Mais prix Nobel de médecine, Jean Dausset, français, qui est malheureusement décédé, était un ami personnel. Et lui, il soutenait complètement mes travaux également. Donc, également, je honore la mémoire du professeur Joshua Lederberg, professeur qui est malheureusement décédé, et qui lui aussi est président, il était président de l'université Rockefeller aux États-Unis, et lui applaudissait cette découverte aussi. Donc.
Aux États-Unis, il porte le même nom, ça s'appelle baclofen aussi.
Baclofen, mais sans E, il n'y a pas, sans accent, c'est B-A-S-E-B-A-C-L-O-F, comme François, E-N. Baclofen, donc il n'y a pas l'accent. Et donc si on veut chercher baclofen sur le site du National du Institute of Health, qui est le site de référence, on tape baclofen, B-A-C-L-O-F-E-N, et si vous voulez mettre, par exemple, Amezen, ou Olivier Amezen, parce qu'il est mon frère qui publie aussi, vous tomberez sur mes publications. Il y en a 9, dont Lancet, JAMA, qui sont les plus grandes revues de médecine, mais également, et ça m'honore, Science, l'une des deux avec Nature, plus importante revue internationale, qui a fait une pleine page donc sur moi, comme l'a dit très bien Monsieur Forbes. Et d'ailleurs, le magazine Forbes a dit les trois mots qu'il faut reconnaître pour cette année, c'était addiction, baclofen et Amezen. Donc je crois que je suis reconnu par beaucoup de personnes ici et là.
Bonjour, Isabelle Freinet pour Doctissimo. Je voulais savoir, est-ce que vous avez une idée aujourd'hui de combien de médecins spécialistes ou généralistes en France qui prescrivent le baclofen, notamment pour l'addiction à l'alcool? Est-ce que vous avez une idée?
Oui, elle est... C'est le plus fort? Oui, elle est les gens... Alors, il y a un article qui le mentionne. Les choses publiées par des Français ont un et un seul intérêt. Elles n'ont pas d'intérêt pour ce qui est du baclofen, mais elles ont un intérêt, c'est qu'ils montrent qu'en effet, à dose très importante, jusqu'à 400 mg par jour, le baclofen est parfaitement toléré. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune dépendance au baclofen, aucune addiction au baclofen, et qu'on se porte très bien, jusqu'à ce qu'on me dise un jour, c'est dangereux. Des gens disent, oui, il y a parfois un peu de doux délire et de petite confusion, c'est mieux que l'alcool. Si quelqu'un veut me contredire là-dessus.
Et vous avez une idée du nombre de médecins aujourd'hui qui le prescrivent en France?
Alors, l'Agence française du médicament, qui elle tient à peu près compte de ce qui se fait, j'espère, dit que le nombre de comprimés vendus il y a avant publication de mon livre, les gens ont malheureusement attendu la publication de mon livre et non pas de mes articles médicaux, dans des revues comme Lancet, Danjama, etc., mais pas de mes publications médicales, pour le prescrire, donc. je crois qu'on peut y aller les yeux fermés, comme on dit.
Comment vous expliquez aujourd'hui qu'il y ait autant de médecins finalement qui soient frileux en fait pour prendre cette décision-là, alors que finalement c'est un médicament qui est peu cher, selon vous, qui n'est pas toxique, qui n'a pas d'effet secondaire.
Pas selon moi, selon tout le monde, hein, sauf ceux qui veulent contredire parce qu'ils ont un poste de président de la Société française d'alcoolologie ou président de la Société de la Fédération française d'alcoolologie, donc ils ont intérêt à maintenir cette spécialité qui ne sert à rien. C'est pas du tout une spécialité reconnue du reste, au même temps, sens que moi je suis cardiologue, c'est une spécialité où il faut faire 2 ans d'internat avec des gardes. Pour l'addictologie, il n'y a pas de garde en addictologie que je connaisse. C'est la même chose pour tout autre médicament. Donc si quelqu'un vous dit je suis mauvais médecin, j'arrive pas à un résultat ou j'ai peur de le prescrire, il faut lui dire c'est dommage que vous ayez pété le serment démocrate. Parce que on vous dit bien qu'il faut agir dans l'intérêt du malade et pas pour sa propre
bien sûr, mais comment vous l'expliquez aujourd'hui finalement après tout votre combat? Je crois qu'il y a des essais cliniques qui commencent fin mai.
Oui,
Des mauvais essais.
Oui, allez-y, mentionnez-les, pourquoi pas. Je vois que, et comme par hasard, ils sont pas mauvais, ils sont lucratifs pour ceux qui les font. Normalement, j'aimerais bien que ce soit justement, c'est pour ça, je n'ai pas envie, une envie particulière d'être reçu à droite et à gauche, mais par contre, parce qu'il y a des médecins frileux, j'aimerais que des gens moins frileux, je pense que monsieur Sarkozy n'est pas très frileux quand il s'agit de prendre des décisions atypiques, comme on le dit, donc je pense qu'il peut-être dire un mot aux gens d'être moins frileux avec ce médicament qu'on connaît depuis 50 ans.
Pourquoi, selon vous, ils sont mauvais, ces essais cliniques qui vont démarrer? Ils ne sont pas représentatifs de ce que vous avez pu expérimenter? Vous pourriez nous expliquer ça?
Ils sont mauvais dans les résultats. Vous savez, quand on se fixe un but, il faut s'y tenir. Moi, j'ai dit qu'il faut supprimer complètement l'addiction, c'est-à-dire que la personne ne doit plus être abstinente, comme l'a très bien dit le présentateur. J'ai noté son nom et j'en suis désolé, je n'ai pas son nom. Monsieur Forbes. Donc voilà, là encore, la frilosité, si on est frileux, il ne faut pas faire médecine, c'est tout. Je crois que ça répond. Ou si un médecin dit, moi je suis frileux avec la pénicilline, je vais pas en prescrire, on lui dit, vous aurez des conseils à rendre devant. D'ailleurs, l'Ordre national des médecins n'a rien dit de négatif, comme l'Agence française des médicaments américaine. Les gens disent, j'ai publié sur 300 mg. Donc, ces personnes qui vont réaliser ces cliniques peuvent s'abstenir de le réaliser, parce que ce que je dis, je suis heureux de pouvoir le dire publiquement, et que ces essais ne servent à rien. Pourquoi? Parce qu'ils arrivent à l'abstinence grâce à 300, en utilisant 300 ou 400 même milligrammes de baclofène. Je ne vois pas pourquoi on va utiliser Adolorato et collaborateurs ont montré, et al, comme on dit en anglais, ont montré qu'il suffisait de 30 milligrammes par jour, ils obtiennent 72% de résultats. Donc si quelqu'un veut faire mieux à 10 fois la dose recommandée par Adolorato, qui utilise 30 et 60 milligrammes, dans des essais cliniques, qui me disent pourquoi. Je n'ai pas l'intérêt de faire un essai clinique pour arriver à l'abstinence, que l'équipe de Adolorato et Gasperini montre très bien à l'Université catholique de Rome. Est-ce que là je réponds? Je ne voudrais pas laisser des réponses. Oui, un micro. Il est prescrit pourquoi? Officiellement, comme on dit, c'est-à-dire si on écoute l'Agence française du médicament, il est prescrit pour des troubles, je crois que je l'ai déjà dit, neurologiques bénins, c'est-à-dire les spasmes musculaires, pour ce qu'on appelle la spasticité. Le terme médical, c'est la spasticité. Donc là, il a l'autorisation d'être prescrit. C'est-à-dire on peut le prescrire pour un médicament anodin, pour un trouble complètement anodin qui est la spasticité. Si c'était dangereux, on ne le ferait pas. Les neurologues qui le font aux États-Unis, en France, je ne sais même pas si les neurologues le font à haute dose, s'ils ne le font pas, c'est dommage pour leurs malades, mais j'ai pas entendu un neurologue m'expliquer, attention, nous ne prescrivons que tant, s'ils le font pas, c'est qu'ils ont recours à une autre forme, c'est la forme intrathécale, c'est-à-dire vous baladez avec une pompe comme l'insuline, et les pompes intrathécales entraînent des morts et des infections, etc. Il y a un médicament dont je voudrais parler, puisque vous êtes journaliste, qui va être approuvé par, et ça c'est scandaleux, enfin qu'il médite cette approbation, c'est un médicament qui s'appelle, dur à prononcer en français, et je lis en anglais, Q-Nexa, Q comme, je sais pas moi, Q comme, comme question, N comme Nathalie, E comme Eric, X comme Xavier, et A comme anatole Q-Nexa. Ce médicament va recevoir un panel de 20 sur 22 personnes à la Food and Drug Administration, la FDA, qui est en train de vouloir approuver ce médicament. Qu'est ce médicament? C'est une combinaison de deux médicaments connus. L'un est une amphétamine, c'est-à-dire la phentermine. Ça met en P-H-E-N-T-E-R-I-M-I-N-E. On peut faire un nom commercial français, ça sera coupe-fin. Fin termine, ça veut dire ce que ça veut dire. Et l'autre médicament, c'est le topiramate. Et la combinaison des deux. Alors le topiramate, lui, peut entraîner en moins d'une semaine d'utilisation la cécité. C'est-à-dire, on devient aveugle en prenant une semaine de topiramate, même à faible dose. Donc aller l'approuver aux États-Unis à forte dose n'est pas quelque chose de sérieux. Et je vais utiliser d'autres, des revues médicales, des éditoriaux, des éditeurs en chef, des rédacteurs en chef de revues médicales me demandent d'écrire des éditoriaux, ce que je fais évidemment parce que tout doit se passer dans la revue médicale, mais je le distille également à la presse, car grâce à la presse. Qui parle de cette découverte, les gens lisent le livre et grâce à la lecture du livre, ils peuvent traiter les patients, les médecins frileux auxquels vous faites allusion, lisent le livre, ils disent mais j'ai un devoir de guérir mes patients et si le médecin ne veut pas le prescrire, qu'on aille voir un bon médecin, c'est tout. J'espère que je réponds, je ne sais plus. Je crois. Et à la vôtre. C'est pas moi qui le dis, c'est l'OMS, l'organisation neurobiologique. Elle n'a rien de psychique, psychiatrique. Alors on dit c'est une maladie complexe. Elle est complexe pour ceux qui ne la comprennent pas. Lisez mon livre, vous le comprendrez. Et je ne peux pas répéter, lire mon livre, là, quelqu'un me l'a donné pour qu'il ne faut pas qu'il oublie de le reprendre. Pour quelqu'un qui a parlé ici, qui est guéri, il voudrait que je le dédicace, c'est fait, mais il me l'a donné ici pour vous. Je peux vous le montrer. C'est ça mon bouquin. J'ai répondu de façon scientifique, mais aussi les patients me disent c'est incroyable, j'ai lu votre bouquin, c'est mon histoire. Les boulimiques le lisent, les gens qui ont de l'anxiété, ils n'ont pas besoin d'être alcooliques ou dépendants, ils peuvent le devenir, mais c'est optionnel, et ils n'ont pas besoin de le devenir. Oui. Oui, on le disait. Attendez, je vous dis, voilà. Bon, allez-y, bien sûr. Bien sûr. Je veux dire, le gardien de mon immeuble est mieux placé que quiconque pour répondre à ça, ou le journaliste qui vient de parler, il n'est ni psychiatre, il est guéri, hein, c'est bien ça, je crois. Il est guéri, il a lu. Alors, si un psychanalyste veut bien se greffer accessoirement, pourquoi pas? Et ils font payer, pardon? Parce que j'ai l'impression que vous ne lisez plus sur le médicament. Mais quel médicament? Lequel? Nommez-le. Il s'appelle le baclofène. Il est générique, aucun labo n'en veut. Moi, je ne blâme pas, on m'a posé la question, est-ce que je blâme les laboratoires pharmaceutiques? Absolument pas. Eux, au moins, ils annoncent la couleur. Non, les laboratoires pharmaceutiques font leur travail qui est de vendre des médicaments. Et c'est normal, c'est un peu comme avant. Mais je la prescris pour tout le demandeur. Quand un patient est demandeur, par exemple, quand il ou elle a un cancer du sein ou du côlon ou n'importe quoi, ou par exemple, c'était le cas pour l'ulcère d'estomac, jusqu'à la découverte de Barry Marshall et de Warren, qui a eu le prix Nobel en 2005, et sa découverte datée de 1983, moi, je prenais en fac de médecine, on ne connaissait pas encore leur découverte, et elle était antérieure à mes études, donc on nous apprenait que c'est un problème, l'ulcère, on envoyait les gens chez le psychiatre, toutes les semaines. Maintenant, on les envoie plus chez le psychiatre, on les traite par les médicaments qui marchent. Et donc, on peut aller voir un psychiatre et on a un rhume des foins aussi. Ouais, je crois qu'il y a pas de dialogue. Non, quelle est la question? Non, allez-y. Non, je réponds. C'est pas le dialogue qui est impossible, les psychiatres. Caroline Eliachev, qui n'est pas n'importe qui a consacré, qui est une psychanalyste très connue et en France et qui a écrit une émission spéciale sur France Culture et une autre sur ce médicament, disent bon, très bien, vous la connaissez. Donc elle n'est pas quelqu'un qui est opposé, mais elle a très bien compris que le médicament suffit. Maintenant, vous pouvez dire, il faut aussi que le cafetier au bureau de tabac l'explique. Le mien le connaît très bien. Oui. Donc si vous voulez mettre une psychanalyse dessus, pas de problème. Vous pouvez aussi mettre l'avis du gardien de mon café ou de beaucoup de gens qui le comprennent. Ouais. Ça répond à peu près ou non à votre question? Vous voulez... Non, quelle est... Oui. Non, ma position, elle est comprise par n'importe quel étudiant en fac de lettres, parce que eux sont patients boulimiques et autres, et ils me disent, tiens, c'est drôle, j'allais voir des psys, etc. Comme je le dis moi, j'y allais avant... Maintenant, je n'y vais plus. On peut aussi voir un gastro-entérologue ou un spécialiste, je ne sais pas quoi. Lorsque quelqu'un a une cystite, il va voir une femme a une cystite, elle va voir son médecin généraliste. On ne va pas voir le spécialiste, le cystologue international pour traiter une cystite. On peut aller voir le celui d'Harvard est derrière moi. Donc, je ne suis pas seul à le proclamer. Les chefs de service, on l'a lu dans mes titres, des universités Harvard, Rockefeller, et je ne vais pas les citer toutes parce que là, il faudrait une émission particulière, le prescrivent, ils pensent exactement ce que je pense. Ils sont pourtant chefs de service en psychiatrie, eux. Je ne sais pas si ça répond. Ça répond à peu près? Je peux. Ça répond à votre question? Je ne suis pas contre les prises en charge, quelles qu'elles soient. Oui, si quelqu'un a un cancer du côlon, certains disent, est-ce que je peux aller voir un psy pour en parler? Je leur dis évidemment, et tout le monde leur dit évidemment. Et s'ils ont des corps aux pieds, ils ont le droit d'aller voir un psychanalyste pour leur en parler. Mais ils ne sont pas obligés. Je veux dire, si on a envie d'en parler à qui que ce soit, moi je préfère en parler à vous, mais les bons psychiatres le prescrivent également, ils sont les premiers à le faire. Eux se rabattent sur le médicament. Renaud de Beaurepaire, qui est chef de service en psychiatrie à l'hôpital Paul Guiraud à Villejuif, le prescrit. Il ne dit pas aux gens, vous avez droit à une psychanalyse en plus. Il ne le fait pas. Même chose. Alors, redites-moi votre question et ce à quoi je n'ai pas répondu. J'ai répondu à ça. Je dis, on peut avoir un accident psy quand on a un accident de voiture, quand on pense qu'on va en avoir un. Le psychiatre, mais non, on a le droit d'aller voir un psy pour n'importe quoi.
Ça veut dire qu'il n'y a aucune cause psychique à la maladie
d'alcoolisme? On nous disait jusqu'à il y a pas longtemps que les ulcères d'estomac étaient de cause psychique. Et on les envoyait chez le psychiatre. Maintenant, ils ne vont plus chez le psychiatre, ils prennent 10 jours d'antibiotiques et 10 jours de médicaments. C'est tout. 10 jours d'antibiotiques. Maintenant, si vous voulez voir, et s'ils veulent atteindre un ulcère d'estomac, aussi voir un psychiatre, on ne va pas leur empêcher. Là, je ne réponds pas. Non, si c'est pas répondu, je continuerai. Hein. Je ne veux pas qu'une question reste irrépondue. J'ai répondu sur Radio France Internationale. Moi, je me moque de savoir, je ne suis pas le seul, de savoir s'il y a une MM, c'est-à-dire une autorisation de mise sur le marché ou pas. Vous savez, je me répète, passer sur Radio France Internationale et d'autres radios, je dis là-bas que l'AMM, à peu près en pédiatrie, 60% des médicaments sont prescrits hors AMM. En psychiatrie, même chose. Donc, si on veut attendre l'AMM, c'est-à-dire 120 morts par jour pour le prescrire, certains l'ont été. Renaud de Beaurepaire dit que cette attitude est criminelle. Donc on a le droit d'attendre l'AMM. L'attentisme, ici, n'est pas de mise. Si je vois quelqu'un en arrêt cardiaque et que je dis je n'ai pas lu les dernières réclamations qui sont défibrillées, faire un massage cardiaque, et c'est autant une urgence. À chaque cuite, à chaque prise de ce produit, un patient peut mourir. Chaque alcoolisation massive peut conduire à la mort. Donc est-ce que j'ai là répondu ou non? Non, mais excusez-moi, madame, parce que je crois... Oui.
Le problème, c'est que les patients, les gens, dans les journaux, les gens écrivent pour dire qu'on est allé voir un médecin et ne veut pas nous donner de...
On est allé voir... si vous me dites on ne peut pas acheter de la roquette chez Franprix, ben on dit allez chez Monoprix. Ils en ont. Donc, si vous échangez, allez voir un médecin. Ah non, mais il y a plein de médecins. Il y a des associations qui sont créées pour que les gens répondent. Non. Non, je veux m'adresser au pouvoir. C'est l'État, je veux m'adresser au plus haut niveau de l'État. Je n'ai pas besoin de m'adresser à l'agence française. Les Américains, eux, l'agence américaine du médicament, je crois que je l'ai dit et je vais le redire puisque ça ne passe pas, l'agence américaine du médicament, qui est l'équivalent de l'AFSAPS, l'agence française du médicament, lorsqu'on prescrit à ces doses-là, ne dit rien. Donc pourquoi l'agence française du médicament est la seule au monde à nous dire il vous faut l'AMM pour le faire? C'est le seul pays. Vous allez dans n'importe quel autre pays. J'ai même eu un médecin, chef de service de psy, je crois, ou de pharmacologie, qui est intervenu sur mon émission, et maintenant il le prescrit également sur Radio France Internationale. Donc si on peut le faire en République démocratique du Congo, je pense que les médecins français peuvent suivre le Congo. Mais parce que, vous savez, un mauvais médecin se trouve à tous les coins de rue aussi. Il y en a qui ne veulent pas prescrire pour l'hypertension, pour la grippe. Ils veulent rien. Quand un médecin, moi je mets un nom sur, je ne suis pas professeur de sémantique, mais je suis soutenu par des étudiants en sémantique, à Rabat, je l'ai eu au téléphone pour un problème annexe, j'ai eu des problèmes avec mon téléphone portable, ils m'ont délégué une personne à Rabat qui a parfaitement compris, elle, les notions de sémantique, à réduire ses primaires. Si un médecin ne veut pas le prescrire, mais il y en a plein. Changer de médecin, je veux dire. Si certains médecins ne veulent pas prescrire de la pénicilline, quand vous avez une pneumonie ou une méningite à méningocoque, c'est qu'ils sont incompétents. Ça répond là à des questions? C'est déjà ce qui se passe dans leur tête. Ouais. Oui, la réponse est dans votre question. Et c'est le directeur de l'école alsacienne, c'est toujours d'ailleurs Georges Jacquard, il est maintenant à la retraite, me disait, moi j'ai du mal, quand on lui demande qu'est-ce que se passe dans la tête d'un autre, il dit j'ai déjà du mal à comprendre ce qui se passe dans la mienne. Alors si vous voulez que je réponde à la place du médecin lambda, qui lui en Saône-et-Loire peut-être ne le prescrira pas, je ne suis pas dans sa tête, je ne sais pas s'il a des conflits d'intérêts, et ça m'est à peu près indifférent. D'autres, ça m'indiffère, l'opinion de la SAPS ou de médecins qui ne prescrivent pas, s'ils prescrivent pas il y en a qui ne prescrivent pas de la pénicilline dans les méningites à méningocoque, ça se termine devant le tribunal. Là, ça va bientôt se terminer devant les tribunaux. C'est-à-dire les patients et leurs familles vont dire, mais docteur, pourquoi ne me prescrivez pas ou pas ce médicament anodin alors que la pénicilline, il y a des morts au quotidien, à la fois pour la maladie qu'on traite et même pour l'utilisation de tel ou tel médicament hors AMM. Donc il y a des médecins qui sont résistants, c'est parce qu'ils n'ont pas compris, je ne peux pas comprendre à leur place. Est-ce que là je réponds? C'est bon? D'accord, sinon je peux élaborer, moi ça ne me dérange pas. Oui, ils ont besoin, ces psychiatres et ces médecins. Les psychiatres prescrivent ce médicament. Ceux qui ne le prescrivent pas ont besoin d'électrochocs. Hein. C'est-à-dire, s'ils sont en arrêt cardiaque, oui, donc mon livre était une réponse à leur mise au panier de ce médicament. En effet, s'il y a des médecins incompétents, ils vont se reconnaître, ils vont dire, bon, peut-être que je ferais mieux, ou de dire aux gens, je ne suis pas prescripteur de baclofen, ou je ne prescris pas de digitaline, parce que c'est très dangereux. La digitaline est très dangereuse, mais pas les autres médicaments qu'on prescrit, mais il faut la manier bien. Maintenant, s'il dit, je ne sais pas la manier, je suis résistant, il faut dire, surtout ne la maniez pas, parce que vous allez faire encore plus de dégâts. Donc, que ces médecins disent, je suis incompétent pour cette prescription, je n'ai rien contre. Alors, si vous dites, c'est parce que j'ai quelque chose contre qu'il ne faut pas le prescrire, c'est eux qui sont à soigner. Autre question, monsieur, si vous voulez donner votre nom et votre... Oui, je connais ce journal. Il est passionnant. Oui, je crois que j'ai dit ça plus tôt, non? Je l'ai dit. La réponse est oui. Oui, oui. Le baclofène est un anesthésique puissant. On l'utilise dans les douleurs, là aussi en RMM, dans les douleurs, il y a des articles publiés cancéreuses. Donc ce n'est pas parce qu'il est prescrit en RMM pour les gens qui ont des douleurs cancéreuses, parce que c'est un excellent adjuvant là aussi. Donc ça anesthésie non seulement physiquement, mais le baclofène anesthésie, entre guillemets, l'âme. Je ne prétends pas y connaître quelque chose. Mais il donne, pour les gens qui sont ou dépressifs ou qui se reconnaissent dans ce traitement, il leur donne non seulement un espoir, mais un traitement. Beaucoup de gens me disent, je vais changer de médecin traitant et maintenant on me le prescrit. Est-ce que je réponds à votre question, monsieur, ou...
Pour compléter la question de mon collègue, est-ce que parmi vos patients, vous aviez des personnes qui avaient une addiction à la cocaïne et
oui.
qui ont lâché la cocaïne?
Oui, l'héroïne aussi, j'ai un présentateur... Oui, oui, un présentateur de radio, je ne peux pas donner son nom parce qu'il souhaite rester anonyme, je ne le ferai pas, mais il est guéri, il a été écouté, on m'entendait, lui, il a compris. Je le dis dans mon bouquin, encore une fois, tout est dit, je le fais avec plaisir, mais c'est important de le faire, mais c'est dit dans mon livre, et c'est applaudi par ceux qui font la recherche chez la plaie animale, et par les chefs de service de psychiatrie, par je ne sais plus qui d'autre, vous aviez mis dans votre question, non, madame? Ah, pardon. Oui, oui. Alors, j'ai traité en l'espace de quelques jours, en 5 jours, un héroïnomane. Je ne connais pas les unités, je connais les unités d'alcool, je ne connais pas bien les unités d'héroïne qu'un héroïnomane utilise. J'ai jamais vu d'héroïne de ma vie, j'ai jamais vu de cocaïne. Mais comme je le dis dans mon cas où je crois que les éditeurs l'ont supprimé, je dis, je suis un héroïnomane qui n'a jamais vu d'héroïne, je suis un cocaïnomane qui n'a jamais vu de... Je n'utilisais pas ces drogues parce qu'elles sont illégales et je voulais pas me retrouver. Je suis allé des réunions de narcotiques anonymes aux États-Unis et là-bas c'était Starsky et Hutch, c'est-à-dire ils parlaient de menottes, de moi j'avais pas droit à ça, avec l'alcool on vous met pas les menottes, on vous arrête pas et on vous met pas en prison. Pour ces autres addictions, le baclofène n'est pas illégal, c'est la drogue qui est illégale, la cocaïne, l'héroïne, les amphétamines, enfin, ça marche pour à peu près, je ne connais pas d'addiction sur lesquelles ça ne marche pas, ça marche aussi encore une fois dans le binge eating et la boulimie. Donc les gens qui ont ces fringales, ils ne peuvent pas s'abstenir parce que c'est dans leur tête, la dopamine leur dit, et c'est ce que dit le National Institute of Health des États-Unis, pour un alcoolique, le baclofène est... l'alcool est plus important pour un alcoolique que la nourriture. Vous allez voir n'importe quel SDF dans la rue, vous lui dites, je vais vous acheter un plat venant de la tour d'argent ou je ne sais quoi, ou s'ils font du service pour les SDF, ils peuvent s'y mettre, ils diront, non, je n'en veux pas de ça, je voudrais une bouteille. Est-ce que vous pouvez me donner une... Eux ne m'appellent pas docteur, ils m'appellent monsieur, c'est tout, monsieur Olivier pour d'autres. Est-ce que ça répond aussi à votre question, madame? Il n'est pas traduit comme eux. Je crois que ça a été dit par monsieur Ford, ou peut-être je l'ai dit ou pas dit. Alors, le livre n'a pas été traduit du français comme d'aucuns le disent. Ceci est faux. Je l'ai écrit à la dernière minute. Mes éditeurs français, moi, je n'en avais pas d'ailleurs, m'ont dit, tu devrais peut-être te faire dans ta langue maternelle. Je me suis dit, pourquoi pas. Je l'ai réécrit rapide en français. Il paraît qu'il est différent. Je ne parle pas dans le français, je parle de ma rencontre et du fait que Ennio Morricone m'admire. Il paraît qu'il fredonne, il peut le démentir si c'est pas vrai, mais il écrit lui-même. J'ai sa lettre dans laquelle il me dit que mes chansons et ma musique est fascinante. C'est peut-être là-dessus qu'on devrait faire une... On peut la trouver sur YouTube. J'ai parlé à quelqu'un, Reinaldo Arenas, et si vous mettez headshowcon.dr à Mezen, vous verrez une chanson qui s'appelle Una Flor en la Memoria, et je le fais pour rendre hommage à cet écrivain qui s'est suicidé parce qu'il avait le sida et parce qu'il avait peur qu'on dise qu'il est dément. Il s'est suicidé pour cette raison en 1990. C'est une rencontre intense que j'ai faite en 1988. Un de mes meilleurs amis, et j'honore ici sa mémoire. Là, je ne sais pas si je réponds.
Non, ce que je veux savoir, le livre est d'abord sorti en anglais. Et vous avez fait...
Non. Non, je vais vous dire pourquoi il n'a pas sorti en anglais, parce que l'éditeur là-bas avait eu la finesse de ne pas le faire, parce que c'était en pleine élection présidentielle, c'était à l'époque Obama contre Gore, je crois, et elle s'est dit, il vaut mieux pas le sortir à ce moment, donc elle a donné la permission aux éditeurs français pour ils en ont changé le titre, parce qu'ils disaient que ça faisait plus marketing, et là je suis pas un expert, le dernier vers en France marchait mieux que la fin de mon addiction, ils ont sans doute raison, je sais pas, et ils ont fait la même chose en Italie, la dernière et le dernier, je sais pas, je connais pas le titre. Oui. Il est, alors, bien entendu, il s'appelle, original, c'est The End of My Addiction en anglais, et il est traduit donc en anglais, il est traduit avec une autre préface, etc. Donc, et là, je suis en train d'écrire une autre préface pour le livre de poche. Je demande pardon à la rédactrice de J'ai lu, il sort en poche, et je lui ai toujours pas, alors qu'elle insiste, fait la préface, parce que je n'ai pas le temps, j'ai des choses importantes, mais qu'elle m'en excuse, c'est Madame Le Glu. Il existe en portugais, il est sorti au Brésil, il s'appelle, je ne peux pas vous donner le titre, je ne parle pas brésilien. En espagnol, pas encore, non, pas encore. C'est oui, alors ça, là il faut, bon on va pas, ça c'est peut-être off the record. Ce ne sont pas des traductions de mon livre qui existent, ce sont des livres que... C'est le livre, en fait, je l'avais écrit en anglais. J'ai mis 2 ans à peu près à l'écrire. Oui.
Mais par exemple, ce livre-là, maintenant, on est en français...
Le dernier vers, oui, chez De Noël, 2008.
Est-ce que par exemple, la version
française... Il est... La version française, non. Non, pas du tout. C'est la traduction toujours de The End of My Addiction, qui est l'original en anglais, mais le livre français a un avantage, c'est qu'il s'appelle Le Dernier Vers, mais il a surtout un avantage, c'est que je ne raconte pas la même chose. Je raconte que j'ai rencontré, je sais plus qui, Bette Midler, et que je me suis mis au piano, et elle a commencé à chanter, alors que je le dis pas, je crois, je parle pas de Morricone dans la version anglaise, je parle de Bette Midler, que j'ai joué pour Bette Midler au piano. Oui.
Circulée en Afrique.
Tout à fait.
Et si des pouvoirs publics en Afrique vous avez contacté pour adopter ou pour adopter le baclofène dans leur traitement des addictions. Voilà, c'était un petit peu mon idée.
Oui, le baclofène n'est pas enfant qu'on adopte, on n'est pas en recherche de gens pour adopter. Les pouvoirs publics du Congo, ils peuvent tout à fait me contacter, ils ont eu l'intelligence et la finesse de ne pas le faire, parce qu'ils savent très bien que ça se prescrit, et leur prescripteur est sur Radio France Internationale, il est auditeur, ils n'y ont rien dit à ma connaissance, je crois qu'il n'y a pas de problème pour ça. Donc le livre existe, si vous pouvez faire demander à ce qu'il circule plus, bah, tant mieux. Mais...
de blocage en France, j'aurais voulu savoir si dans d'autres pays où...
La réponse est non. Non.
Non.
Non. Je vais vous dire quelque chose de drôle et pour répondre à cela. En France, je ne voulais pas le sortir. Pourquoi ? Parce qu'on peut, en France... Il y a quand même ce qui est une atteinte à la liberté d'expression qui n'existe pas en Angleterre ou aux États-Unis. Il n'y aura, à ma connaissance, pas en Afrique. On peut retirer un livre des rayons de librairie. Je me suis dit, si je le fais en France, il y a des gens qui ont fait des livres et on les retire du commerce à la demande de X ou Y. On ne peut pas faire ça aux États-Unis. On n'a pas le droit de retirer un livre des rayons ni aux États-Unis, ni encore moins en Angleterre. Je crois que les pays africains, qu'ils soient démocratiques ou pas, n'ont jamais retiré mon livre. On ne me l'a jamais dit dans aucun pays que ce soit en Afrique, en aucun pays, je ne connais pas, il n'y a pas de traduction en arabe, je serais heureux qu'elle existe, mais pardon. Ah, si, il y en a en République islamique, oui, tout à fait, et la rechute y est considérée comme un meurtre, comme quelque chose, une offense capitale, et les gens sont punis de peine de mort, et ils exercent la peine de mort en République islamique d'Iran pour les gens qui rechutent.
Merci, monsieur le professeur. Et pour tous ceux qui voudraient une explication personnalisée avec le professeur en médecine, peuvent le professeur en médecine aller avoir plus ample information. Merci.
C'est moi qui vous remercie.